Bonjour et bienvenue dans Venu d'Orient, le podcast des voix de la diaspora maghrébine et moyenne orientale. Avec vous, Nawel Alamouchi, et cette semaine, je me suis entretenue avec Maral Kianpour, romancière franco-iranienne. Dans cet épisode, on parle d'Iran, ou plutôt de l'Iran en souvenir, de récits de famille. À travers ses livres, Maral Kianpour fait revivre des destins oubliés. Elle raconte un pays, son pays, bien plus complexe que les clichés auxquels on peut le réduire. Maral puise dans ses racines persanes pour explorer les questions d'identité, de transmission, mais aussi de liberté. Entretien avec Maral Kianpour. Maral, merci de nous faire le plaisir donc d'être ici pour Venu d'Orient. Je vous laisse dans un premier temps vous présenter pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas.
Alors, je m'appelle Maral Kianpour, je suis née en 82 sur le sol français de parents iraniens. Moi, j'ai été coupée en fait de mes racines iraniennes depuis la naissance et je cherche à travers l'écriture à me raccrocher à cette partie de moi qui est très loin. C'est un travail que je fais depuis une quinzaine d'années en écrivant des romans sur l'Iran et sur la Perse.
Et donc, votre mère est perse,
oui.
Et votre père est turc.
Tout à fait, turc-azéri. En fait, c'est la minorité la plus importante d'Iran. On va dire que la moitié de la population iranienne est d'origine persane, 20% est azéri. Ensuite, on a des Kurdes, des Arabes, des Baloutches, des Afro-Iraniens, donc il y a plein de communautés différentes. Effectivement, ils se sont rencontrés en France dans le cadre de leurs études et ils se sont épousés et moi, je suis le fruit de leur union.
Donc, vous êtes née en France, mais l'Iran est très présent chez vous, forcément, à la maison. Quel est le premier souvenir qui vous vient quand vous pensez à cet Iran qui a été aussi transmis par vos parents?
Alors, c'est vrai que malheureusement, la première impression qui me vient, c'est plutôt une impression de souffrance et de tristesse. Il faut savoir que je suis née en 82, donc pendant la guerre Iran-Irak, les frontières ont été fermées pendant de nombreuses années. Ce n'était pas comme aujourd'hui, il n'y avait pas les réseaux sociaux, donc on pouvait difficilement communiquer avec la famille. On avait des coups de fil très courts qui coûtaient très cher, le courrier mettait des mois à arriver. Et en fait, ma mère était toujours très triste dès qu'elle parlait à sa famille ou quand elle recevait le courrier, ça la faisait toujours pleurer. Donc c'est vrai que pendant de longues années, moi j'ai vu l'Iran plutôt comme quelque chose de très lourd, de très triste. Et c'est vrai que j'ai commencé un petit peu à voir l'Iran différemment, on va dire depuis que je suis devenue mère à mon tour, et j'ai voulu transmettre différemment à mes enfants, parce que moi j'ai été coupée un petit peu de ses racines, et je voulais quand même qu'eux restent accrochés à cet Iran qui est à 4211 km, mais qui est quand même toujours présent dans ma vie.
Mais c'est relativement tard.
Oui, tout à fait. Oui, très très tard. En fait, j'ai grandi dans un milieu très bourgeois, on était dans un quartier très bourgeois, donc j'étais la seule enfant issue de l'immigration. Et en fait, moi, j'étais quelqu'un de très discret, qui était très introverti. Et c'est vrai que j'avais du mal un petit peu à trouver ma place. Et c'est vrai que pendant très longtemps, j'avais même un peu honte d'être d'origine iranienne parce que c'était vraiment assimilé à la guerre, au terrorisme, à l'islam radical et à toutes ces choses négatives. Donc c'est vrai que pendant longtemps, je n'assumais absolument pas d'être d'origine iranienne. Je voulais être juste française et c'est tout. Alors qu'aujourd'hui, j'essaie de faire cohabiter en moi l'Orient et l'Occident, et l'Iran et la France.
Et donc, vous avez construit votre carrière dans un univers qui est plutôt scientifique à la base.
Tout à fait.
Et vous avez développé une œuvre littéraire. Est-ce que l'écriture a toujours été là en secret ou il y a eu un moment précis où elle s'est imposée dans votre vie?
J'écrivais, même petite, c'est vrai que j'écrivais des petites nouvelles. Alors, il y avait un peu de théâtre, un peu de science-fiction. J'écrivais en primaire, au collège. Même en école d'ingénieur, j'écrivais aussi. Mais c'est vrai que je me suis sentie légitime à écrire après la naissance de mes enfants parce que je voulais vraiment qu'il y ait quelque chose d'écrit et qui puisse leur être transmis ensuite plus tard. Donc, c'était vraiment dans cette idée de transmettre quelque chose. Et donc, les premiers romans que j'ai écrits étaient plutôt des histoires familiales. Donc, je me suis inspirée de l'enfance de ma mère, sa jeunesse. Le roman précédent parlait plutôt de la vie de mon oncle qui a fait la guerre Iran-Irak. Et là, le roman actuel parle également de la famille de mes parents, mais d'une façon un peu plus détournée, un peu plus cachée.
Vous avez écrit quelque chose d'intéressant. Mes racines iraniennes ont quelque peu été coupées. Je cherche aussi, en écrivant, à m'attacher à cette partie de moi qui est ailleurs. Il me paraît maintenant évident que si je n'écris pas sur cette autre moitié, elle s'éteindra en silence.
C'est vrai que, en fait, pour les femmes, si on ne prend pas la parole, en fait, on ne nous la donnera jamais. Donc, on est obligé de se battre tout le temps pour prendre la parole et pour transmettre des choses. Sinon, ça s'éteindra avec nous, en fait. C'est pour ça que vraiment, pour moi, il est très important de transmettre. Là, pendant 3 mois, les femmes iraniennes ne pouvaient même plus communiquer parce qu'Internet était coupé. Moi, j'ai la chance de vivre dans un pays libre, en France, où je peux parler, je peux transmettre. Je peux montrer un autre point de vue sur l'Iran, sur le peuple iranien, sur les familles iraniennes. Donc, il ne faut vraiment pas que moi, je me censure ou que je m'empêche de le faire, parce qu'elles, là-bas, ne peuvent pas.
Mais justement, le fait d'écrire, est-ce que c'est pour vous une manière de sauver une mémoire, mais aussi une partie de vous-même?
Oui, peut-être. Alors, c'est vrai que moi, je le vois plus comme une étape en fait de transmission, c'est-à-dire vraiment montrer que l'Iran, ce n'est pas que jamais sans ma fille, l'islam radical, les milices, tout ça. Ça existe, bien sûr que ça existe, mais les familles iraniennes sont éduquées, sont porteuses d'espoir. Enfin, il y a quand même toute cette jeunesse qui connaît le monde en fait grâce aux réseaux sociaux. Et le gouvernement voudrait les faire taire, les faire disparaître. Et malheureusement, encore aujourd'hui, il y a des exécutions tous les jours. Juste parce qu'ils ont fait un tweet, juste parce qu'ils ont manifesté. Bon, voilà, il y a des pendaisons tous les jours. Donc, pour moi, c'était très important de transmettre cette idée que la jeunesse iranienne est porteuse d'espoir pour l'Iran et pour le monde entier.
Et justement, tout à l'heure, vous disiez que vous aviez honte d'être
Oui, tout à
iranienne
fait.
lorsque vous étiez plus
Oui,
jeune.
oui, oui.
Ce sentiment-là, est-ce que vous avez peut-être aussi pas envie que vos enfants l'aient?
Tout à fait. Oui, tout à fait. J'aimerais vraiment qu'ils soient heureux d'avoir cette part iranienne en eux. Parce que c'est un héritage millénaire, c'est un héritage. Il y a tellement de courants dans l'islam, le soufi, les bahaïl, le mysticisme. Il y a également beaucoup d'autres courants qui ont vécu dans cette région. Et j'aimerais qu'ils soient, le zoroastrisme également, et j'aimerais qu'ils soient conscients de ça, des contes pré-islamiques, de toute cette richesse de la poésie persane, et qu'ils soient vraiment conscients de tout ce que les générations d'avant, voilà, ont porté et qui est parvenu également jusqu'à nous.
Le fait d'écrire sur l'Iran, est-ce que ça vous a permis, vous aussi, de connaître, d'apprendre
Ouais.
aussi votre propre histoire?
Alors tout à fait, quand je rédige, quand j'écris moi-même sur l'Iran, je me renseigne également beaucoup. Donc en France, on a la chance d'avoir des ouvrages non censurés, on peut commander des livres qui sont parfois non traduits, mais on a quand même accès à toute cette littérature qui nous a précédés. Et du coup, cela m'aide également à connaître des choses que je ne savais pas, par exemple sur la guerre Iran-Irak, sur le rôle des Kurdes pendant cette guerre, par exemple, ou sur un tas d'autres sujets également.
Et sur les récits justement des femmes,
Ouais.
est-ce qu'il y a aussi cette idée de sortir des clichés, des idées
Tout
reçues?
à fait.
Est-ce que vous avez un exemple de femme qui
Alors,
vous a motivé aussi à
c'est
vous
vrai
écrire?
que j'ai différents exemples. Alors, c'est vrai que dans le domaine scientifique, la première femme qui a reçu la médaille Fields est une femme iranienne, Maryam Mirzakhani. Elle a reçu cette médaille. Elle est décédée malheureusement très jeune, il y a quelques années. Et c'est la première femme, donc elle a fait tout son cursus universitaire en Iran. Ensuite, elle a eu une bourse, elle est allée à Harvard. Et c'est là qu'elle a eu sa médaille Fields pour ses travaux. Et donc, ça, c'était vraiment un exemple pour moi dans le domaine scientifique. Et dans le domaine littéraire, alors c'est vrai que pour moi, c'était vraiment Marjane Satrapi, dans les années 2000, qui est décédée également, donc il y a très peu de temps. Et dans les années 2000, elle a sorti sa BD Persépolis. Et en fait, pour la première fois, il y avait quelqu'un qui montrait le peuple iranien, pas comme voilà, des gens fanatisés, des gens durs, des gens terrifiants, en fait, qui faisaient peur. D'ailleurs, pendant longtemps, quand je disais que j'étais d'origine iranienne, je sentais la terreur dans les yeux des gens qui me regardaient. Donc, au bout d'un moment, je ne le disais même plus. Je disais non, non, je suis française, et puis c'est tout. Mais c'est vrai que voilà, Myriam Mirzakhani et puis Marjane Satrapi sont pour moi deux exemples, l'un dans la science et l'autre dans la littérature.
Et est-ce que cette guerre qui a lieu actuellement entre l'Iran et les États-Unis n'a pas un peu aussi détérioré, je dirais, cette image?
Je pense que quand même maintenant, on a l'accès quand même à des réseaux sociaux et je pense que quand même quand on voit les images de jeunes filles qui arrachent leur voile, qui les brûlent, même de jeunes hommes qui les défendent, de filles qui font des battles de rap, qui essaient vraiment d'arracher en fait comme ça des moments de liberté à un régime qui est extrêmement dur. On a tous les images, les vidéos, donc en fait on ne peut plus vraiment dire qu'on ne sait pas. Je pense qu'aujourd'hui les gens ont vraiment conscience que le gouvernement iranien est ce qu'il est. Alors que le peuple iranien est tout à fait l'inverse, très éduqué, très ouvert. D'ailleurs, avant cette guerre, il y a quelques années, j'ai des copines qui sont allées en Iran, elles n'étaient pas iraniennes, pour voyager, et m'ont dit que vraiment, elles étaient reçues comme des reines partout où elles allaient. Parce que le peuple iranien, comme il vit quand même de façon assez fermée, assez en autarcie, il est très curieux en fait envers les étrangers. Ils veulent vraiment montrer une image d'eux qui n'est pas si négative. Et donc pour eux, c'est important aussi de montrer qu'ils ne sont pas leur gouvernement en fait.
Et comment vous le vivez, vous, sur le plan personnel, cette guerre, tout en sachant que vous avez une partie de votre famille qui est actuellement en Iran?
Alors, bah, c'est beaucoup de stress en fait, parce que pendant 3 mois, on n'avait pas de nouvelles. J'ai beaucoup de cousines de mon âge. On a été un peu inquiets parce que bah, j'avais une cousine qui devait accoucher. J'ai une tante qui est lourdement handicapée, qui était en établissement. Donc, on n'avait vraiment aucune nouvelle. On ne savait absolument pas voilà, s'ils étaient encore en vie, s'ils étaient blessés. Donc, ça a été quand même assez long. Alors, on a eu quand même l'espoir au tout début que peut-être cette guerre allait entraîner peut-être une révolte en interne et aller libérer le pays. Malheureusement, ça ne s'est pas passé. Donc, c'est vrai que je pense qu'en tant qu'Iraniens, on était tous un peu déchirés en deux parce qu'on ne savait pas en fait ce qu'il fallait espérer la paix, espérer que ce régime tombe, mais à quelles conditions. Voilà, ça a été vraiment, je pense, très difficile pendant plusieurs mois. Oui.
Et aujourd'hui, est-ce que vous avez encore un petit peu d'espoir ?
Bah, toujours, hein, j'ai envie de dire, on est obligé parce que eux, ils sont très courageux, ils continuent d'ailleurs, ça ne s'est pas arrêté parce qu'en fait, les raisons qui ont poussé les gens à se révolter au mois de janvier sont toujours là. Donc en fait, les manifestations vont continuer même si elles vont être réprimées dans le sang. Donc moi, je suis obligée de garder espoir pour eux, en fait, par respect pour leur combat. Donc oui, il n'y a pas le choix.
Sur votre double culture, donc je le rappelle, ouais. Vous êtes née en France, votre père est turc, votre mère est perse. Ouais. Donc vous avez grandi entre plusieurs héritages culturels. Est-ce une richesse selon vous qui élargit le regard sur le monde ou est-ce que vous le vivez plutôt comme un tiraillement avec l'impression de ne jamais appartenir complètement à un seul endroit ?
Oui, alors c'est vrai qu'en vieillissant, je le vois plus comme une richesse. Après, c'est vraiment une histoire de paix intérieure parce que si on est en paix avec soi-même, je pense qu'on arrive à faire cohabiter de façon harmonieuse différentes cultures. Après, entre les Turcs azéris et les Perses, la seule vraie différence, c'est vraiment la langue, parce que mes grands-parents ne parlaient pas perse, en fait, ils parlaient le turc azéri. En Iran, les ethnies se mélangent quand même assez facilement. Ce n'est pas quelque chose qui paraît incroyable ou très choquant, en fait.
Donc, vous avez trouvé un certain équilibre aujourd'hui ?
Oui, je pense, oui. Mmh.
Est-ce que vous retournez en Iran ?
Alors, la dernière fois que j'y suis allée, j'avais 14 ans, donc ça date pas mal. J'y suis allée que deux fois, en fait. Les deux fois, c'était quand même des séjours assez longs, puisqu'on voyait toute la famille. Mais c'est vrai que la dernière fois, j'avais 14 ans, j'étais très jeune. J'ai subi une fouille au corps assez poussée lors d'un contrôle à l'aéroport par une des miliciennes du régime. Et en fait, je l'ai vraiment très, très mal vécu. Pour moi, c'était presque comme une agression sexuelle, en fait. C'était très violent pour moi. J'étais avec mes cousines dans la rue. On faisait rien de mal, mais on était arrêtés pour X raisons, parce qu'on voyait les chaussettes qui dépassaient du pantalon. Enfin, voilà. C'était vraiment très, très lourd pour l'adolescente que j'étais. Et après ça, c'est vrai que je n'ai plus jamais voulu retourner en Iran. J'ai voulu y retourner ces dernières années, justement pour montrer à mes enfants, en fait, leurs cousins, leurs petits-cousins et ce pays. Mais en fait, ces dernières années, il y a eu aussi une politique des otages de la République islamique d'Iran. Et des amis de mes parents qui étaient allés se sont fait arrêter à l'aéroport et ont fini en prison jusqu'à ce que leur famille envoie une rançon pour les libérer. C'est vrai que ces dernières années, malheureusement, non, je n'y suis pas retournée, mais c'est vraiment un espoir que j'ai aussi d'un jour pouvoir montrer le pays à mes enfants.
Donc vous gardez un dernier souvenir qui est quand même assez traumatique.
C'est vrai que le dernier séjour que j'ai fait, il y a 14 ans, était quand même assez dur. Mais en fait, c'est pas plus dur pour avoir parlé à d'autres Iraniennes qui sont soit arrivées récemment, soit arrivées il y a quelques années. En fait, elles ont toutes des histoires dans ce style-là. Donc se faire arrêter pour quoi que ce soit, bon, il y a la mèche de cheveux qui dépasse, mais il y a aussi la chaussette qui dépasse du pantalon. Enfin, il y a énormément de choses, en fait.
Et donc, vous avez quand même l'espoir d'y retourner, mais avec quelle casquette ? La petite fille qui cherche ses racines, qui découvre son pays d'origine, ou plutôt la romancière en quête d'histoire, ou les trois ?
Oui, les trois, je pense. Oui, tout à fait. Je pense que ça me permettrait de transmettre encore à mes enfants autre chose, parce que là, je peux leur transmettre par la littérature, mais là, avoir les odeurs, avoir les sons, et puis vraiment voir ce mélange de langues. C'est vraiment quelque chose d'unique. En fait, c'est un pays qui n'a pas été du tout occidentalisé, en fait. C'est vraiment l'Orient pur, si je puis dire. Donc, c'est vraiment un voyage à faire. L'architecture est magnifique, la littérature est magnifique. Mais les gens sont... Oui, tout à fait. Mais c'est surtout les gens. Les gens, vraiment, sont d'une chaleur, d'une générosité. Et vraiment, même si vous ne parlez pas la langue, ils vont vous inviter chez eux. Enfin, c'est vraiment quelque chose à vivre, je pense, une fois dans sa vie.
Et pourquoi est-ce qu'il est si important pour vous de continuer à parler justement de ce pays ?
Oui. Alors, c'est important pour moi parce que je pense que j'ai, par le biais du hasard, en fait, j'ai eu la chance de naître ici, en France. Mes cousines, donc, qui ont mon âge, elles sont nées, ont grandi en Iran. Et je vois quand même la différence de vie que nous avons. Et je pense que moi, venant de cette France privilégiée, j'ai le devoir, en fait, de transmettre leurs histoires pour pouvoir être digne d'elles, en fait.
Une question que je pose à tous mes invités, cette double culture, pour vous, c'est plutôt une richesse ou un obstacle ? J'ai l'impression que ça l'a été lorsque vous étiez plus jeune.
Oui, tout à fait. Pendant longtemps, quand j'étais plus jeune, c'était plutôt un obstacle. Mais c'est vrai que j'avais pas beaucoup d'exemples, en fait. J'avais pas beaucoup d'exemples autour de moi d'Iraniennes qui auraient réussi dans quelque domaine que ce soit. Que ça soit dans la cour de récréation, quand j'étais en primaire, tout le monde parlait de la guerre Iran-Irak, les méchants iraniens, les femmes en tchador noir. Puis après, il y a eu le film « Jamais sans ma fille », donc il y a eu beaucoup de succès, qui donc montrait les Iraniens comme un peuple complètement sauvage et fanatisé. Donc c'est vrai que pendant longtemps, en fait, j'avais cette image-là. Et donc je me disais, mais je ressemble pas à ces gens-là, en fait. Je ressemble pas à ces Iraniens-là. Donc non, je ne suis pas iranienne. Et puis plus tard, en rencontrant d'autres Iraniens, d'autres Iraniennes, et puis avec les exemples que j'avais de femmes iraniennes célèbres qui montraient quand même qu'on pouvait être iranienne et puis aussi libre, en fait. Libre, et puis faire des avancées scientifiques importantes, raconter une autre histoire de l'Iran. Du coup, oui, ça m'a permis aussi de trouver un équilibre et d'être aussi très contente d'être d'origine iranienne.
Si votre grand-mère ou votre mère ou l'une des femmes qui vous a précédée pouvait lire aujourd'hui l'ensemble de votre œuvre, qu'aimeriez-vous qu'elle reconnaisse de son histoire dans vos livres ?
Ah, c'est une très bonne question. Mes grand-mères étaient des femmes. Alors, la mère de mon père était illettrée, donc de toute façon, elle n'aurait jamais pu lire mon livre. La mère de ma mère, par contre, était une femme très pieuse. Donc, je ne sais pas si elle aurait eu un œil très, très positif forcément sur ses livres, parce qu'elle avait une façon de voir la vie très différente de la mienne. Donc. Après, ma mère, non, elle a complètement adopté la France, donc c'est vraiment différent. Elle se reconnaît complètement dans les livres. Elle est très heureuse que je transmette ça de cette façon. Mais c'est vrai que pour mes grands-mères, c'était vraiment une autre génération. Donc ça, je ne sais pas vraiment, je ne peux pas me prononcer sur ce qu'elles auraient pensé de ces romans.
Et quels sont vos projets pour la suite, Marie ?
Pour la suite, j'aimerais bien continuer à écrire. Donc continuer à écrire des romans sur l'Iran, sur la Perse, et continuer à montrer un autre visage de l'Iran. Alors c'est vrai que dans mon précédent roman, j'avais plus parlé de la communauté kurde, qui a beaucoup combattu pendant la guerre Iran-Irak. Là, dans le roman qui vient de sortir au mois d'avril, je parle plus de la communauté afro-iranienne, qui est très peu présente en fait dans les représentations cinématographiques ou littéraires. Et dans le prochain roman, je pense que je parlerai peut-être plus des juifs iraniens, parce que contrairement à ce que les gens pensent, il y a des juifs en Iran, il y a des synagogues, il y a des écoles. Alors il y en a beaucoup moins qu'avant la République islamique, bien sûr, il y en avait beaucoup plus du temps du Shah d'Iran. Mais il y a toujours des juifs en Iran et je voulais également parler d'eux, sans doute dans un prochain roman. Parce qu'il y a des gens, quand je leur parle de la communauté afro-iranienne, les gens me disent « Mais ah bon, il y a une communauté afro-iranienne ?»
Même des Iraniens, j'imagine.
Tous les Iraniens ne sont pas au courant, d'ailleurs. Mais il y a une communauté afro-iranienne comme il y a une communauté afro-irakienne, afro-omanaise. Enfin, en fait, il y a une communauté d'origine africaine dans tous les pays. Donc, pourquoi il n'y en aurait pas en Iran ? Donc, ça me paraissait intéressant parce qu'il y a des traditions qui sont bien spécifiques, des rituels qui sont très intéressants, dont je parle dans mon dernier livre, et je voulais mettre l'accent effectivement sur eux.
Ouais. Et donc vous faites des ponts aussi entre
Tout
les différentes
fait.
Cultures. Ouais. Merci beaucoup, Mara Le Campour, d'avoir pris le temps de nous répondre.
C'était un plaisir, merci.
Vous venez d'écouter « Venue d'Orient », un épisode avec Mara Le Campour, romancière franco-iranienne, avec vous Nawel Alamouchi, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.